Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous parlons aujourd'hui de la fermeture des facultés de médecine dans certaines universités. Il n'y a que 16 universités qui sont autorisées à recruter les étudiants à la faculté de médecine. Quelles sont les vraies raisons à la base de cette décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? On en parle aujourd'hui avec le professeur Antoine Chimpi, coordonnateur des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Professeur Antoine Chimpi, bonjour.
Bonjour, bonjour, merci de me recevoir.
Bien, nous aurons également en ligne monsieur le professeur Bekele Ofembe, conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94. Comment bénéficier d'une bourse de l'association United World College? Voilà, le collège du Monde Uni. On en parle à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Paul Badianyama, la mise en onde au micro, c'est Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. La nouvelle est tombée comme une bombe. Et bien, désormais, il n'y a que 16 universités qui sont autorisées à recruter les étudiants à la faculté de médecine sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire vient d'interdire le recrutement des étudiants dans les universités dont les facultés de médecine sont déclarées non viables. Eh bien, la décision est tombée après, à l'issue des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui ont eu lieu à Lubumbashi. Eh bien, nous recevons aujourd'hui le professeur Antoine Chimpi, coordonnateur de ces assises. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, voilà. dans l'ensemble, comment se sont déroulés les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire?
Globalement, bien, pas que à Lubumbashi, hein, comme j'ai tendance à le rappeler. Les états généraux ont commencé bien avant, parce que dans la semaine, le mois et demi qui ont précédé, il y a eu un tour de tout le pays où il y a eu des ateliers, des enquêtes,
des
consultations de la base de tous les Congolais qui ont fait des propositions, qui répondaient à deux questions simples. Quel est votre ressenti? Comment vous vivez l'enseignement supérieur et universitaire, votre vécu? Et s'il y a des problèmes, quelles sont vos propositions, quelles sont vos solutions que vous préconisez. Il n'y avait que deux questions qui ont parcouru le pays entier. Et donc, des enquêtes, des ateliers, il y en a eu 24 dans toutes les provinces de la République. Des questionnaires, il y en a eu 26 000 réponses qui avaient été recueillies et colligées et traitées. Nous sommes partis avec tous ces éléments différents à Lubumbashi, où il y avait des experts qui, eux aussi, ont planché sur les mêmes questions. Et enfin, nous avons eu à faire ce qu'on appelle une mise en commun pour les questions qui ont été regroupées en cette commission, en cette grand chapitre. Et de là, nous avons retenu des résolutions. Voilà, une méthodologie qui a été, dans le sens simple du terme, scientifique, et arrivée à la fin, qui faisait donc le mélange des propositions des uns et des autres, pas que les enseignants, pas que les étudiants, pas que ce qu'on appelle le PATO, le personnel enseignant ou technique, administratif, technique et ouvrier, mais également les parents, également les sociétés, les entreprises, mais également les représentants, ce qu'on appelle les partenaires extérieurs ou intérieurs. Voilà, une panoplie de tout ce qui, de près ou de loin, sont concernés par l'enseignement supérieur universitaire. Et donc, les débats ont été houleux pendant 5 jours là-bas, des échanges vifs, et donc qui devraient aboutir à des résolutions. Vous savez, nous en avons retenu 330.
Et résolutions.
Résolutions.
C'est beaucoup pour
C'est beaucoup en même temps, à la fois, mais c'est peu. Parce que n'oubliez pas que ces états généraux sont arrivés 25 ans, alors que la loi demande que ça soit tenu tous les 5 ans. Donc, au bout de 25 ans, nous avons accumulé des problèmes. Nous avons accumulé des anomalies. On va peut-être en parler.
Oui.
Et donc, il fallait porter de solutions à ces éléments. Et d'ailleurs, quand j'ai dit 25 ans, il y a 25 ans, 96, 96, c'était l'éducation nationale. Et où il y avait une colonne, si j'ose dire, de l'enseignement supérieur. Donc, si on parle l'enseignement supérieur strict sensu, on va monter à une cinquantaine d'années. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ces 330 résolutions. Peut-être que c'est en rapport avec des gros problèmes, des nombreux problèmes que connaît notre secteur aujourd'hui.
Alors, à l'issue de ces états généraux, c'est les secteurs de la médecine qui subit les premières frappes. Pourquoi seulement la médecine?
Ben, les premières frappes. J'aime bien ce terme-là, mais d'autres viendront. Et en tout cas, tous les secteurs seront concernés. Pourquoi la médecine? Ben, je reprends le propos du ministre, Mwendoza, qui dit, mais la médecine, ça, c'est la vie des gens. Si on trouve des anomalies dedans, on n'a pas le droit de traîner. On n'a pas le droit d'attendre, on n'a pas le droit de continuer à philosopher, parce qu'on a le terme.
Il faut vite passer à l'action.
Il faut passer à l'action, c'est d'autant que certaines questions ont été posées il y a 8-9 ans, déjà, avec des moratoires. Vous savez, en 2013-2014, c'était la première année, la première période où le Premier ministre, par décret, a donné un moratoire de 3 ans aux établissements de l'enseignement supérieur universitaire pour se mettre en conformité. 2013-2014. Puis on suivi un audit organisationnel, puis un audit des viabilités, comme on dit, et pour les facultés de médecine, le Conseil de l'Ordre de médecins a rajouté une enquête à son initiative. Tout ça se sont déroulés dans les 8 dernières années, et donc je viens de vous dire, les échanges nous ont amenés à Lubumbashi pour les états généraux. Ça faisait, au lieu de 3 ans, il y a eu un moratoire, on est à 8 ans. Et les gens, vous savez, pendant que nous parlons, j'ai tendance à dire, c'est quelque chose de concret. Il y a aujourd'hui, maintenant, des gens qui franchissent des portes des cliniques, qui vont dans des dispensaires, qui sont malades, qui ont besoin d'être soignés. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent trouver devant eux un docteur ou un infirmier ou quelqu'un qui est compétent, qui va bien prendre en charge son problème de santé et en sortir guéri. Il ne faut pas qu'on oublie tout ce dont on est en train de parler. Il s'agit bien de la vie.
Et la
vie est sacrée. C'est dans notre constitution. Et cette vie des gens, on ne joue pas avec. Et
alors, on dit que ces établissements sont non viables. Qu'est-ce que cela veut dire?
Il y a des critères de viabilité. Et tous ces établissements le connaissent. Personne aujourd'hui, quand on a eu des audits organisationnels, qu'on a eu des audits des viabilités, qu'on a reçu des délégations de ministères, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas ces critères. Et ils sont simples. Vous savez, lorsque pour la faculté de médecine, parce qu'il y en a pour différents domaines.
Quels sont ces critères, professeur?
Mais si vous ouvrez une faculté de médecine, la première chose, la plus simple, le doyen de cette faculté soit un enseignant médecin. Fait qu'il soit de la médecine. Vous avez des facultés qui ont des doyens qui ne remplissent pas cet élément fondamental simple. Une faculté qui forme de médecins doit avoir des laboratoires qu'on appelle des laboratoires de pratique. Par exemple, pour la biochimie, la physiologie, pour l'anatomie, vous ne pouvez pas concevoir qu'un médecin formé n'ait jamais fait des pratiques sur l'anatomie. Et je peux vous jurer qu'il en existe beaucoup des facultés comme ça. Troisième point, que cette faculté, le minimum, qu'il soit propriétaire de ses bâtiments, c'est quand même la moindre des choses, hein, oui, des critères pertinents, ou alors
faut vraiment, pas aller squatter.
Voilà, et être mis dehors trois mois après, et vous retrouvez avec des étudiants qui ont payé de frais et qui se retrouvent nulle part. Vous voyez, des choses simples. Qu'il y ait des enseignants. Ouais, on parle de la formation. Il faut former. Et ceux qui forment, c'est des enseignants. On demande un minimum de trois enseignants. Trois professeurs, trois enseignants résidents.
Permanents,
résidents,
oui,
stables. Non, permanents. Au moins trois pour le premier cycle et au moins deux pour le deuxième cycle. Vous voyez, c'est des choses simples, j'allais dire de bon sens. Une faculté de médecine doit avoir un hôpital ou une clinique universitaire. Parce qu'on ne forme pas un médecin, j'allais dire dans la brousse. Il a besoin d'aller en stage, voir de vrais patients, des humains qu'il examine. Il apprend à examiner les malades. Il apprend comment faire le diagnostic, comment traiter les gens et voir comment ça évolue. C'est des éléments de bon sens. Donc, tous les compatriotes qui nous suivent, les étudiantes, ils doivent comprendre que c'est pour nous tous. C'est pour notre bien. Mmh. Si nous acceptons ou nous tolérons des formations qui sont en dehors des normes,
ben nous qui sont bâclées, mais on met la vie des citoyens
en danger. Nous mettons, permettez-moi le terme, des criminels sur le involontaire, parce que c'est peut-être pas de leur faute, ils savent pas, ils règlent leurs frais, mais voyons la finalité de tout ça. On met des gens qui sont en danger et ça se ressent sur le terrain, parce que notre médecine, vous savez, j'ai la chance d'avoir une formation ici, puis aller travailler longtemps à l'étranger, le diplôme congolais avait une réputation reconnue mondialement. Quand on vous voyait à l'œuvre, on disait, mais vous étiez formé, je vous jure, c'était reconnu comme ça. Maintenant, les choses ont beaucoup changé.
Vers le mal.
Ouais. La qualité a beaucoup baissé. En externe comme en interne. Vous avez sûrement des gens autour de vous qui se plaignent de la qualité de l'accueil ou de médecins qu'ils ont accueillis quand ils ont eu des problèmes de santé. Nous voyons des jeunes médecins qui arrivent. J'ai l'avantage d'être enseignant. Il y a vraiment un problème. Et donc, lorsqu'ils terminent, qu'ils ont des diplômes de docteur en médecine, quand ils viennent pour se faire inscrire au Conseil de l'Ordre, même le Conseil de l'Ordre qui a mené ces enquêtes, c'est dans ses prérogatives, et trouve qu'il y a des problèmes. Le résultat, c'est qu'il y a plein...
Professeur, les auditeurs déjà attendent, vous attendent, ils sont déjà là avec des questions. Voilà. On va les accueillir. Balanga Ndoumé nous appelle des Kalemi, Platini est en Bandaka, Isaïe Kabundi à Kinshasa. Balanga Ndoumé, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama.
Quelle est votre question par rapport à la fermeture des facultés de médecine non viables?
Par rapport à la faculté de médecine non viable, moi-même je suis affecté, je suis à Calais. J'ai des questions et j'ai des suggestions ou mes mécontentements.
Allez-y rapidement.
La première question est de savoir les critères d'inclusion et d'exclusion de ces facultés de médecine. Qu'ils nous expliquent palpablement les motifs qui ont motivé de nous exclure, nous ici qui sommes à l'Université de Kalemi. Et la deuxième question était de savoir si le gouvernement est là pour sanctionner ou pour soutenir et accompagner les gens qui sont opprimés ou bien les gens qui sont en position de faiblesse. Et le mécontentement est que nous qui sommes à l'Université de médecine, moi ici je suis en dernier... dans la dernière formation, s'il vous plaît, je suis en 2-3. S'ils vont m'orienter, ils vont m'orienter où? Et pour que je puisse m'adapter avec les camarades que je vais rencontrer là, je vais faire comment? C'est pourquoi moi, je demanderai au ministre de pouvoir accompagner ceux qui ont, dans le bon état, les universités qui sont dans les normes, dans les moyens de conduire, surtout nous qui sommes dans les universités officielles. Monsieur Jody Daniel Katam, au Tanganyika, regardez même la carte géographique de la RDC. Au Tanganyika, nous n'avons qu'une seule université, qui est celle de Kalemi, qui organise la faculté de médecine. Pendant que cette faculté-là n'est pas retenue parmi les facultés qui sont sur la liste du ministre. C'est ainsi que, via votre voix et via notre invité, je demanderai de voir, de tenir aussi ces critères-là.
D'accord, pour voir comment relocaliser les étudiants. D'accord, c'est noté. Platini Mbombo, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Jody, bonjour. Je salue l'invité.
Quelle est votre question?
Voilà, merci beaucoup Jody pour m'avoir associé à ce débat. je pense que les résultats qu'on a entendus, pour moi, c'est un résultat que nous tous, nous saluons, cet résultat. Et aussi, ce que je peux quand même dire, parce que la rencontre qui a été liée au niveau de Lubumbashi, c'est tout dans les facteurs de médecine à RD Congo. Vraiment, nous sommes très contents pour cette mesure. Et si, si je parle, parce que je suis un Bandaka, je suis fier parce que l'aide parmi le 16, notre université, l'université de Mbandaka Inuma, est parmi. Donc là, on se coupe des chapeaux dans le comité de gestion des acteurs de l'Inuma. Alors, ce que moi, je peux quand même vous dire et pour ajouter, parce que aujourd'hui, là, comme le ministre a suspendu quelques universités à travers le pays, c'est bien beau. Parce qu'il y a d'autres universités qui ne respectent pas les cahiers de charges, surtout dans les facteurs de filière de médecine à travers le pays.
D'accord. Quelle est votre question, rapidement? Quelle est la question?
La question que je vais poser, la question, merci beaucoup, Jody. La question que je vais poser, est-ce que, y a-t-il moins possible que dans chaque université qui est repris d'organiser la faculté de médecine, est-ce qu'il n'y a pas moyen lors des stages professionnels? Parce que souvent, s'il y a un stage, il faut que les étudiants quittent, soit une Mbandaka, aller à Kinshasa pendant moins de deux mois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on considère que, comme ici, un Mbandaka Linguma est là, qu'on considère que Linguma fonctionne bien, ça évolue très bien? Est-ce qu'il n'y a pas moyen lors des stages qu'on puisse faire des stages ici même dans la ville de Mbandaka, là où il y a l'université?
Au lieu de venir ici à Kinshasa pour les stages.
Oui.
D'accord, merci. D'accord.
Là-bas, ça évolue bien. Deuxième question, est-ce que je veux quand même parler sur le plan de la fréquentation des professeurs. Je dis bien que ça, aujourd'hui, nous sommes à haut niveau, à haut niveau que nous sommes maintenant là. Mais la fréquentation des professeurs, est-ce que le ministre est très content à ça? Est-ce que tout au long de l'année académique, est-ce que on peut avoir combien de professeurs qui peuvent fréquenter cette faculté?
Merci. Merci Platini. D'accord.
Cette attention maintenant.
D'accord. Esaïe, on va donner la parole à Esaïe Kabundi depuis Kinshasa. Bonjour Esaïe.
Bonjour monsieur, je dis Dangen Kachama et aussi à l'invité, aussi aux auditeurs de la Radio de la Paix.
Bien, soyez bref dans vos interventions, vous êtes nombreux à vouloir participer. Alors ne prenez pas beaucoup de temps. Esaïe, allez-y rapidement.
Oui, moi je salue la fermeture de ces quelques facultés, de cette faculté qui est vraiment une faculté humaine, qui était mal organisée dans d'autres instituts dans notre pays. Bon, moi je voulais juste poser la question à notre invité. Il y avait déjà quelques universités et instituts qui avaient déjà cette faculté dans leur université, et il y a d'autres étudiants qui sont même en G2, G3, qui sont au milieu de l'année afin d'attendre leur diplôme de fin de cycle. Alors, quelle sera l'organisation du ministre, vu qu'il a fermé cette faculté dans d'autres universités? Maintenant, quelle sera
le sort, quel sera le sort de ces étudiants-là?
Oui, qui ont déjà commencé à étudier en médecine, qui sont déjà en G2, G3, voire même le L1, L2. Maintenant,
merci.
Quelle sera
leur sort.
L'organisation auprès du ministre.
D'accord. Merci
alors,
beaucoup.
Alors, j'avais une autre suggestion.
Laquelle?
Oui, je voulais juste demander à notre ministre pour qu'il puisse quand même, dans ces 16 universités qu'il a choisies, qu'il ait quand même un hôpital et que ses élèves qui finissent leurs études à université donc médicale, ils trouvent quand même des emplois au sein de leur hôpital qui sont construits au sein de leur université.
Merci. C'était Benjamin, Benjamin, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bonjour, Benjamin.
Allez-y rapidement, Benjamin. Les autres attendent.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Avant de faire mon analyse par rapport à la décision du ministre, il faut d'abord préciser que cette décision n'est pas une surprise pour nous parce que l'institution académique 2019-2020 disait déjà que les moratoires des 3 ans accordés aux facultés de médecine pour se doter de leurs propres cliniques universitaires a déjà pris fin. Et le point 40 de la même institution dit « Pour toutes les facultés de médecine fonctionnant, une mission d'enquête sera diligentée et à l'issue de celle-ci, les facultés ne répondant pas aux normes doivent être fermées. » Alors une inquiétude se pose, monsieur Jody. Si aujourd'hui le ministre dit que certaines des facultés de médecine dans les différentes universités à travers le pays ne sont pas viables. Moi, je trouve que le ministre est en parfaite contradiction. Pourquoi ? Parce que l'article 142 de la loi cadre de l'éducation nationale civile, aucun établissement d'enseignement ne peut ouvrir une nouvelle faculté, une nouvelle option section sans l'autorisation préalable du ministre du gouvernement central ayant l'éducation dans ses attributions ou soit les gouverneurs des provinces selon les cas. Alors la question que je me pose, qui avait autorisé à ces universités de pouvoir fonctionner ? Et moi je trouve qu'au Congo, parfois le ministre de l'Éducation autorise l'ouverture des universités avant même qu'on puisse procéder à l'enquête de viabilité. Et de notre côté, monsieur Jeudi, je trouve que le ministre a agi, je ne peux pas le contredire, mais il a agi selon la loi, parce que l'article 144 de la loi cadre stipule que lorsque les conditions de création d'une institution universitaire sont entachées d'irrégularité, l'autorité compétente procède à la fermeture temporaire ou définitive.
D'accord.
En cas de
merci Benjamin.
Définitive, oui. Il est réparti s'il y a lié les étudiants dans d'autres institutions.
Il faut les relocaliser. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé Benjamin de Kananga. On va rapidement donner la parole à François Mboma de Lubumbashi. Bonjour François.
Oui, bonjour, bonjour Radio Okapi.
Bien, soyez bref François, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette décision de fermeture des facultés de médecine?
En fait, nous sommes tous victimes de cette fermeture-là, mais trois questions que j'aimerais poser à notre invité plus rapidement. Alors, j'aimerais savoir d'abord, pour ce moment ici, la décision vient d'être prise. Et cette décision a été prise par rapport aux rubriques ou bien les conditions que le ministère a posées. Je voulais prendre juste une condition sur le nombre de professeurs. Le ministère a demandé qu'il y ait des professeurs, qu'il y ait des professeurs d'origine de cette université-là.
Et à l'ère actuelle, moins professeur, Timpi a parlé de trois. Il faut qu'il y ait au moins trois professeurs
pour
permanents.
Pour le premier cycle et deux pour le deuxième cycle.
Oui. Oui, en fait, j'aimerais savoir, d'abord pour devenir professeur, il faut combien d'années et vous allez imposer à une université qui est à l'émergence d'avoir des professeurs qui sont de cette université-là. Et pourtant, nous avons des professeurs qui sont des visiteurs aussi, qui viennent dans ces universités. La première question, c'est que je voulais juste savoir sur le nombre de professeurs que vous avez demandé. La deuxième question, je voulais savoir... on est en train de parler beaucoup plus sur les étudiants, la délocalisation des étudiants. Et puis les médecins qui ont déjà terminé dans ces universités-là, quel sera leur sort? Parce que les CNOM avaient toujours donné de l'assurance sur le sort de ces universités-là.
D'accord, alors, merci François.
Médecins qui ont déjà terminé.
Oui, merci. Oui, allez-y rapidement. Vous n'avez que quelques secondes.
La dernière question, j'aimerais savoir, par exemple au Katanga, il y a seulement l'INILU qui est retenu. Alors, toutes ces universités vont déverser leurs étudiants à l'INILU. Quel sera le nombre des étudiants dans un auditoire?
La capacité d'accueil de l'INILU. D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé François Mboma. Nous parlons aujourd'hui des raisons qui ont motivé la fermeture des facultés de médecine dans plusieurs universités. Vous voulez participer, composez les 081-890-63-94.
Radio Okapi diffuse ce mardi 21 septembre 2021 à 19h, heure de Kinshasa, en direct de New York devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, le discours du chef de l'État et président en exercice de l'Union Africaine, Félix-Antoine Tshisekedi. L'émission spéciale Dialogue entre Congolais sera suivie après l'allocution du président de la République. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, fermeture des facultés de médecine dans plusieurs universités à travers le pays. Il n'y a que 16 universités qui sont autorisées à recruter les étudiants qui doivent faire à la faculté de médecine. Professeur Timpi, il y a eu beaucoup de réactions. On peut les recouper. Vous avez la parole.
Oui, alors donc 16 établissements qui sont autorisés à faire des inscriptions pour la rentrée académique prochaine. Mmh. Ça veut dire les autres, 16 sur environ 90, doivent se poser de questions. Pourquoi ils sont pas sur la liste?
Oui.
Et tout simplement, ils reprennent la fiche des critères et c'est à eux. de revoir ces critères, de dire, mais est-ce que nous remplissons ces critères? S'ils estiment qu'ils sont aptes, ils remplissent ces critères, ils ont le droit de faire une réclamation, un recours, en disant, voilà, nous, les critères 1, 2 jusqu'à, voilà, 10, nous les remplissons. Et ben, ça va être analysé au niveau du cabinet, enfin, du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, et éventuellement réhabilité. Les critères sont clairs et sont ils ont une cote. Chaque critère est coté et donc au total sur 100. Vous voyez, pour s'adapter dans nos conditions, c'est-à-dire pour contextualiser ces évaluations, au lieu de rester à 100%, on avait ramené la barre à 60%. Sinon, on aurait fermé beaucoup, enfin, on aurait interdit à plus que cela. Je rappelle l'objectif ici. L'objectif n'est pas de fermer de tel ou tel établissement. L'objectif est d'assurer une formation conforme,
de
qualité pour les médecins qui sortent dans tel ou tel établissement. Deuxièmement, ce n'est pas les étudiants qui sont visés. Les établissements qui accueillent les étudiants ont obligation de s'assurer du respect des normes comme édictées dans notre pays. Donc, on ne peut pas rester les yeux fermés, ne rien entendre, alors que devant, on voit bien qu'il y a des anomalies graves avec des conséquences déjà sur terrain. Quel est le sort? Je veux regrouper un peu les questions. Il y a beaucoup de questions sur le sort des étudiants qui sont dans ces centres. Ce classement, si j'ose dire, en fonction des critères de viabilité, va donner en gros trois groupes d'établissements. Vous avez le premier groupe qui remplissent à 60% au moins les critères demandés, c'est le groupe 1. Ces établissements sont autorisés à continuer à inscrire, comme on a dit. On ne parle pas de fermeture encore. Cette note circulaire dit quels sont les établissements qui ont la possibilité d'inscrire l'année prochaine. Donc, quand on dit note circulaire, sans doute qu'un arrêté, les arrêtés viendront, peut-être pour fermer ceux qui ne remplissent pas les conditions, parce qu'ils ont le temps pour faire leur recommandation, leur recours. Donc, le premier groupe rempli, il n'y a pas de problème. Vous aurez un groupe intermédiaire où c'est des établissements qui remplissent une partie des critères de viabilité qui sont donnés, mais pas complètement. Ces établissements-là, parce que toutes ces questions ont été discutées au niveau des états généraux, ces établissements vont avoir une période de 5 et 10 ans. Ils vont être mis sous tutelle, sous parrainage d'une université ou d'un établissement qui, lui, a rempli les critères de viabilité. Une sorte de compagnonnage pendant ces temps-là, le temps de lui laisser la possibilité de se mettre aux normes. Cet établissement, donc, dans la mesure possible, gardera ses étudiants. Sauf qu'il va travailler pendant ces 5 années sous parrainage d'un autre établissement. Et vous avez le troisième groupe d'établissements qui est vraiment en dessous des critères de viabilité. Ben, on ne va pas laisser des étudiants continuer à être formés dans dans des établissements où
qui ne répondent pas aux normes.
Ces étudiants-là seront donc seront toutes vraisemblablement orientés vers d'autres universités, d'autres établissements les plus proches. Je rappelle, l'objectif, c'est d'avoir une bonne formation. Même les étudiants devraient s'approprier de cette mesure. Ils ne devraient pas accepter de continuer à cheminer ou d'être formés dans un centre dont on dit aujourd'hui qu'ils ne respectent pas le nombre de viabilités. Ça serait quasiment criminel. Maintenant,
Professeur. On va recevoir M. Beke Lofembe, qui est le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Monsieur Beke, bonjour. Monsieur Beke, bonjour.
Bonjour, Prof Simpi, comment allez-vous?
Bonjour, conseiller. J'espère que ça va bien pour vous également.
Ben, ça va, j'en profite pour te féliciter pour ta nomination. On continue.
Merci beaucoup.
Monsieur Beke, ça chauffe ici.
C'est chaud.
C'est chaud, les réactions viennent de partout par rapport à cette mesure interdisant à certaines facultés aux facultés de médecine de plusieurs établissements de ne pas recruter les étudiants. Les étudiants sont... Ouais. C'est le désarroi, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir. Il n'y a pas assez de professeurs permanents, il n'y a que des professeurs visiteurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces préoccupations-là?
Ben écoutez, moi je renchéris dans ce que le prof Timpi vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, les mesures ne sont pas pour bloquer le cursus des étudiants, mais c'est pour s'assurer que les étudiants reçoivent une bonne formation et qu'ils rendent effectivement compte du diplôme qu'ils vont recevoir. Pour la petite histoire, on cesse de le répéter depuis un temps, ces mesures font suite à des démarches, à un processus qui date de plus de 10 ans. Donc, c'est-à-dire que les établissements ne peuvent pas se dire être surpris, parce que depuis 2011, il est fait état de certains problèmes de qualité au niveau de la formation des établissements de manière générale, mais particulièrement puisque c'est le cas des facultés de médecine. Et comme le prof Tim qui vient de dire tout à l'heure, le critérium de fonctionnement normal standardisés d'une faculté de médecine ont été donnés, ressources humaines, infrastructures, laboratoires, cliniques universitaires, et le moratoire leur avait été donné pour trois ans à partir de 2013,
voilà.
Qu'ils se mettent en ordre. Maintenant, au regard de toutes ces enquêtes, au niveau de l'audit organisationnel qui a été fait en 2010-2011, l'audit organisationnel qui vient d'être fait, l'enquête nationale qui a été menée dans le cadre des états généraux, l'enquête indépendante, il faut pas qu'on embête trop le conseil de l'ordre des médecins, c'est eux, non. Eux, ils ont mené l'enquête indépendante, toutes ces enquêtes ont corroboré sur les mêmes résultats, il faut quand même que le ministre agisse. Le ministre a dit, son mandat est mis sous l'action de l'aboutissement des réformes, la bonne gouvernance et la lutte contre les antivaleurs. Tout le monde avait applaudi. Maintenant qu'on entre dans l'application des mesures à prendre, il ne faut pas que les gens se plaignent. Le prof Chimpi a été clair et je suis totalement d'accord avec lui. Cette mesure ne frappe ni les étudiants, ni les enseignants, mais demande aux établissements de se conformer à un certain nombre de principes et de normes. Il n'y a aucun professeur qui peut accepter de former un étudiant qui sera un sous-produit dans la société. Il n'y a aucun parent qui peut dépenser de l'argent pour que son enfant soit formé et qu'il soit mal formé. Il n'y a aucun citoyen congolais qui peut accepter que ceux qui vont s'occuper de ces soins médicaux soient des personnes mal formées. Donc, cette mesure concerne tout le monde. Et vous aurez remarqué, et je pense que le prof Chimpi doit avoir fait déjà ça, que depuis hier, depuis avant-hier,
oui,
on a tout plein de réactions d'établissements qui disent « Ah, à partir d'aujourd'hui, les cliniques d'université, l'hôpital tel est rattaché à la faculté de médecine de notre province. Les députés
s'en mêlent. »
De remplir les comptes. C'est-à-dire que les gens, nous sommes tous conscients qu'il y a des efforts à fournir. Et le but de son excellence monsieur le ministre, c'est justement que nous allions vers ces efforts-là. Les établissements qui vont fournir les efforts nécessaires et qui vont faire preuve du respect des différentes conditions, des différentes normes, n'auront pas de problème pour fonctionner. Nous avons,
monsieur Becquet, en République du Congo,
sauf erreur, une cinquantaine de facultés de médecine. Il y en a 16 qui remplissent de manière, je vais dire, minimale, comme l'a dit le prof, les conditions. Reste aux autres de se mettre au diapason, de se mettre aux normes pour assurer une formation de qualité.
Bien, il y a une réaction d'un internaute qui dit qu'il fallait diligenter d'abord une commission d'enquête pour s'assurer de la viabilité des établissements avant de décider ainsi.
C'est ce que j'ai à dire, ça a été fait. Ça a été fait. Hein, la dernière en date est l'audit organisationnel et contrôle de viabilité 2021 qui a été fait il y a un mois et demi, juste avant les états généraux. Et les états généraux, le prof Chimpi Kernel, le coordonnateur, ont en leur sein organisé aussi une enquête nationale sur toute l'étendue de la République et les résultats sont les mêmes. Donc, la condition d'une enquête préalable, elle est remplie à 120%, si pas 200%.
Alors, que vont devenir ces étudiants qui étaient en pleine formation, aujourd'hui ils sont désemparés, quel sera leur sort?
Je vais encore répéter la même chose, je pense que le prof Chimpi vient de dire.
C'est toujours mieux de répéter.
Qui sont dans les établissements de la catégorie A, les établissements viables, n'ont pas de problème, ils continuent leur cursus. Les étudiants qui sont dans la catégorie B, intermédiaire, et dans la catégorie non viable, il y a plusieurs possibilités. On a parlé de l'accompagnement du patronage par des facultés les plus proches de ces établissements-là, qui vont accompagner ces établissements, surtout les établissements intermédiaires, qui vont accompagner ces établissements, donc les étudiants, à achever leur cursus là où ils se trouvent. Pour les étudiants qui ont été inscrits dans des facultés considérées comme non viables, ils vont être réorientés, réaffectés dans des facultés de médecine des établissements les plus proches des établissements auxquels ils appartiennent. Donc, les mesures sont prises et seront prises pour que personne ne soit préjudicié. Le but de la mesure n'est pas de préjudicier qui que ce soit. Le but de la mesure, c'est de favoriser une formation de qualité.
Bien, merci beaucoup, M. Becquet Ofembe. Je rappelle que vous êtes conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Excellente journée.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt. Professeur Timpi,
oui.
Je reviens à vous. Alors, donc, on retient que... Oui, allez-y.
Est-ce que je peux me permettre, Jordi, je ne sais pas si les gens ont conscience de l'espérance de vie dans notre pays. Je ne sais pas s'ils savent de combien d'années. Quand un enfant, et ça a vraiment un lien important avec ce dont on est en train de parler, quand un enfant, une fille naît aujourd'hui en Europe, en France par exemple, elle a une espérance de vie d'environ 87 ans. Elle espère vivre 87 ans. Et l'homme, le garçon, 78 ans. Lorsqu'on descend en Afrique, l'espérance de vie chute. Nous sommes autour de 56 ans. Et lorsqu'on vous savez que dans notre pays, nous ne sommes pas dans la moyenne africaine. Nous sommes en dessous de la moyenne africaine, autour de 52, 53 ans. Est-ce que vous savez quel est un des éléments importants qui pèse sur les calculs d'espérance de vie? C'est la santé, la vie. Et donc, cet élément-là, nous ne pouvons pas continuer à tolérer que les gens meurent chez nous autour de 45, 50 ans et que nous trouvions ça normal. Et que, qu'il y ait des maladies parfois qui sont soignées. Mais comment nous le prenons en charge? Peut-être que les gens arrivent en retard pour la prise en charge, mais peut-être également nous les soignons mal. Vous savez que je suis médecin. Oui. Et donc, si on veut interférer sur cette espérance de vie qui est
très... Il y a des erreurs médicales qui sont signalées.
Exactement. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à accepter cela et ne pas agir sur les différents leviers qui peuvent l'améliorer. Et un des principaux leviers, c'est la formation, la base de formation. Et donc, les mesures qui sont en train d'être prises actuellement, il faudrait que chacun de nous, les Congolaises et Congolais, se rendent compte que c'est les mesures qui nous sont destinées à chacun de nous. Et que donc, si on doit prendre des mesures, qu'on trouve pas ça lointaine, qu'on ne fasse pas jouer les sentiments. J'ai entendu parler de gens dire, voilà, ben oui, nous, dans notre province, il n'y en a plus.
Il y en a plus.
Il y a un moment, il y avait 3 universités dans notre pays. Il y avait Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani. On formait des cadres, on formait des médecins. Et ils étaient très bien formés. Et quel est cet esprit qui nous prend maintenant? On veut tout avoir autour de la maison. Même dans des pays développés, dans des pays comme la France, la Belgique, vous avez des formations, vous dites, j'aimerais faire telle formation, on va vous dire, ah ben ça, il faut aller dans telle ville. Vous allez aller à Marseille, peut-être vous allez rester 3 ans là-bas.
Parce que là-bas, ils réunissent les conditions. Ils
réunissent les conditions. On n'a pas toutes les facultés, toutes les spécialités autour de chez soi. Il faut qu'on sorte de ça.
Le problème aussi, aujourd'hui, les politiques s'en mêlent. Chaque député veut avoir
son petit ligablo.
Il assure sa base.
Son électorat. Mais il faut qu'on leur explique cela. Il faut qu'on explique que c'est dangereux. Demain ou après-demain, le même, celui que vous avez cité, ou le professeur, le médecin, ou l'élu, le député, le sénateur, un jour lui-même ou quelqu'un de sa famille peut avoir un problème de santé. Et lorsqu'il va arriver devant un hôpital, il a besoin de trouver des gens compétents. Et cette compétence, ça vient d'abord de la formation. Donc, il faut enlever, sentimentalisme, tout ça. Nous devons être sérieux, savoir que nous occupons de la vie des gens. Dans tous les coins de la République, il faut qu'il y ait des gens bien formés, qui prennent en charge des gens dans les normes. Et que comme cela, nous allons préserver le premier élément que nous avons qui est sacré, c'est la vie. Alors, lorsqu'on doit être dans le sentiment, tolérer que les gens meurent ou des gens, non, ça n'est pas acceptable. Je crois que nous devons changer. Quelqu'un me disait, un journaliste me disait hier, non, on est chez nous, il faut quand même oser à la quoi? Il faut qu'on arrête de penser que nous, au Congo, qu'on accepte de vivre toujours en dehors des normes.
Qu'on tolère.
Non. Oui, là, il s'agit de la vie. Il faut s'arrêter. Il faut dire maintenant, faisons les choses correctement. Et nous sommes capables de le faire. Donc, mettons-nous tous ensemble.
Bien, on va accueillir Glody Bouanganga de Kinshasa. Malonga nous appelle de Bandundouville. Alexis Bambé est aussi à Kinshasa. Glody, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à monsieur le professeur. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Merci, bonjour.
Rapidement, quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, je suis d'accord avec les ministres. Nous saluons la décision. Elle est bonne. Vous savez, sans doute, dans notre pays, on forme des médecins, même dans des bourses, même dans des universités qui ne répondent pas aux critères. Là, nous créons nous-mêmes le propre bombe qui va se sauter plus tard. Moi, je suis d'accord. Mais moi, j'aimerais juste poser la question à monsieur le professeur. Monsieur le professeur, je pense que vous avez identifié des listes des universités qui sont retenues. Et si vous pouvez aussi nous identifier des listes des universités qui sont dans les classes B et C, enfin, ceux qui sont prêts à remplir les critères afin d'être admis. Parce que jusqu'à maintenant, nous ne savons pas des listes des universités qui répondent quand même aux critères pour être admis. Ce que j'ai voulu demander, c'est ça. Si vous pouvez nous expliquer, c'est ça, j'ai dit, et je vous remercie.
Bien. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à notre invité là, le professeur.
Bonjour.
Bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre question?
En tout cas, je n'ai pas beaucoup à dire puisque mes confrères ont déjà tout dit. Mais moi, je regrette et je regretterai beaucoup suite aux décisions de nos autorités qui ne demeurent pas. Plusieurs fois, nos ministres décident, mais ils n'arrivent pas vraiment à concrétiser ça.
Vous verrez à faire le suivi.
Oui, il y a ces universités qui ont maintenant. Mais d'ici une année, un peu déjà, vous verrez que ces universités
vont encore réouvrir.
Oui, ils vont réouvrir. C'est ça que je demande au professeur. Qu'est-ce qu'il peut nous dire à ça? Est-ce que la décision sera maintenue jusqu'à la fin, jusqu'à... Parce que l'ordre bien, la décision c'est bien, je suis derrière ça. Mais je suis sûr d'abord pour ce que nous, de Kwilu, qui peut-il être retenu? Mais il s'est pas dans nos villes, mais notre université a répondu. Il y avait seulement dommage de faire parvenir les professeurs ici, parce que notre difficulté de route,
la route n'est pas en bon état. D'accord. Merci Malonga qui veut savoir si la décision est bonne, mais c'est le suivi. Est-ce que cette décision va durer combien de temps? Alexis Bambé, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody. Bonjour au professeur Timpi et félicitations à lui pour les postes et aussi au professeur Jean-Marie Kayembe.
Merci.
Monsieur Jody, le professeur, puis c'est mon professeur, il me connaît bien parce que je suis l'université révérend Kim, nous sommes aussi victimes. Je suis en doctorat. Mm-hmm. La première de préoccupation que j'ai, c'est que pourquoi depuis longtemps tous ces éminents professeurs passaient dans ces universités non viables pour donner cours? Et le professeur Kim m'a donné cours, il est passé par révérend Kim. Et puis, nous avions plusieurs fois participé dans ces conférences. Alors, j'ai une préoccupation. Vous avez des universités comme l'université révérend Kim Timon Kimba, où je parle particulièrement pour la ville de Kinshasa, l'université libre de Kinshasa. Si vous arrivez, vous verrez que ce sont des universités qui ont de beaux bâtiments et aussi qui ont quand même certains laboratoires à l'air sain. Et quand vous vous rendez compte, vous verrez que ces universités ne sont même pas dans les top 55 des universités. La première des questions que je pose au professeur, s'il vous plaît, la question est celle de savoir pourquoi vous n'aviez pas eu le temps d'accorder à toutes ces universités-là le temps de remplir, de leur donner même ces 5 ans dont vous parlez, pour qu'ils remplissent ces critères-là.
Moi, bon, le professeur a répondu déjà à cette question. Il y a eu un moratoire, ils ont eu suffisamment le temps. C'est depuis 10 ans quand même, Alexis.
Alors, je demande maintenant au professeur pour le moment, et notre sort, on le sait. Nous sommes très d'accord avec la décision. Nous ne refusons pas, nous sommes d'accord avec la décision. Et pour ces gens-là qui sont en troisième doctorat, et même en stage internet pour le moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que vous parlez des classes montantes, en médecine, quand on parle des classes montantes, c'est premier doctorat, deuxième doctorat, troisième doctorat, déjà quatrième doctorat, c'est les stages internet, et puis là, on parle pas des classes montantes. On parle de stages internet. Voilà un peu ma préoccupation par rapport à ça.
Merci Bahati. Benjamin Bahati de Bounia. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question rapidement, Benjamin?
Oui, je salue M. Jody et puis le professeur invité.
Merci, bonjour Benjamin. Merci.
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Réellement, je vraiment salué la décision du ministre de l'ESI, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quoi, monsieur le jeudi? Ici, par exemple, à l'Est, il y a des médecins, laissez-moi vous donner d'abord un exemple. Il y a des médecins qu'on les appelle, par exemple, vers la région du Nord qui vous là-bas, les ADEF. Il y a les médecins qu'on les appelle, par exemple, la Condeco en Ituri. Mais le gouvernement n'a jamais pris de décision palpable comme le ministre de l'ESI vient de le prendre. Ma question est celle-ci.
Oui.
Concernant cette décision-là, il y a toujours les étudiants ne veulent pas étudier dans des universités non viables comme le ministre l'a souligné. C'est pour ça que les étudiants contribuent chaque fois pour que les cliniques, tout cela soit
Benjamin, vous n'avez pas beaucoup de temps dans
leurs institutions.
Quelle est votre question,
puis,
Benjamin?
Ils le payent chaque fois et puis pour leurs études.
Benjamin, il n'y a pas de question. Simon, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, jeudi Daniel Kachama. Bonjour également.
Simon, vous n'avez que quelques secondes. Rapidement, rapido, rapido. Quelle est la question?
D'accord, merci beaucoup. J'ai juste une question et une suggestion, professeur. La première question, c'est que beaucoup d'intervenants ont parlé, mais ont oublié une chose. Est-ce que
laquelle?
Le professeur peut nous dire l'essor de ces enseignants de médecine dont leur faculté de médecine, bien entendu, ont été déclarées viables? Quel sera leur sort?
Ont été déclarés non viables ou viables?
Les anciens établissements non viables.
Dont les facultés ont été déclarées
non viables. Viable. D'accord.
Voilà.
Merci.
Ce sera leur sort.
D'accord. Eric Chama, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Gabi et aussi salut tous les auditeurs.
En fait,
monsieur le journaliste, je voulais un peu demander quelque chose. Si réellement on veut rester rigoureux, aucune université ne peut organiser la filière de médecine générale si elle ne possède pas ses propres cliniques universitaires. Je dis bien cliniques universitaires. Au premier elle-même, je dis bien ses propres cliniques universitaires. Pas clinique d'empreinte. J'ai dit bien clinique universitaire, pas seulement un hôpital, mais un centre médical, ni un centre de santé, surtout pas même des dispensaires. Alors concernant la question, je peux le poser à l'invité, comme je suis très rapide et comme vous l'avez aussi obligé, comment alors on va prendre des mesures pour les étudiants qui ne sont pas dans les universités, bon, qui sont dans des universités non viables, et aussi ils vont partir où? Et aussi, moi, j'aimerais même aller même loin de voir aussi les universités qu'on forme aussi les juristes préfabriqués, de fermer certaines universités pour la faculté des droits aussi, économie. Nous sommes vraiment embaumés de cela.
D'accord. Merci. Professeur Chimpi.
Oui. Alors, je rassure notre auditeur, le dernier, que ça ne s'arrêtera pas au niveau des facultés de médecine. Les états généraux concernent tous les secteurs, donc toutes les filières, toutes les facultés seront concernées. Je vais aller rapidement. Pour la liste, Romain, demander, est-ce qu'on fait, on peut savoir ce qu'il faut partir à la liste B ou C. Nous avons établi, enfin, le ministre a publié la liste de 16 qui ont droit de faire des inscriptions. Les autres, dans cette étape ici, ils ont le droit de faire recours s'ils estiment qu'ils rentrent dans le groupe. Les critères de viabilité ont été faits, les audits ont été faits, les listes sont là au niveau du ministère. C'est à eux pour l'instant de s'exprimer et dans un délai que le ministre aura à déterminer lui-même, viendront les arrêter pour dire vous vous fermez, vous restez intermédiaire. Voilà, donc on laisse aux gens de s'exprimer, de se défendre, c'est quand même, voilà, on est dans un système démocratique. Comment est fait le suivi? Il y a un comité de suivi qui est mis en place, je pense que dans très peu de temps, peut-être aujourd'hui ou demain, et un comité de suivi qui sera arrêté, par arrêté du ministre, qui va s'occuper du suivi de toutes ces mesures. Voilà, vous savez, on dit souvent, ah ben oui, vous faites ça, on a déjà fait ça avant. J'ai l'impression que nous sommes rentrés dans cela.
Professeur Machako avait fait ça à son époque.
A fait ça 2009, professeur Machako, puis on n'a rien vu. Et dès qu'on prend les premières décisions, on voit bien qu'est-ce que ça fait comme boomerang. Mais là, il y a des premières décisions. Je rappelle que les états généraux ont eu lieu. C'est quelque chose de concret. On a dit pendant 25 ans, mais comment vous allez y arriver? Jusqu'il y a 10, 15 jours, on nous disait ça encore. Mais ça a eu lieu. Il y a eu des résolutions. Et des résolutions sortent maintenant des décisions. Il faut quand même se rendre compte que l'air commence peut-être à changer. On est dans une période où on est pragmatique. Donc, il faut se mettre dans les normes. Et qu'est-ce qui se passait avant? C'est lui qui dit que, en fait, les gens avaient notre loi permettait ou autorisait les gens avant d'ouvrir des établissements sans autorisation préalable. Donc ils ouvraient et au bout d'un moment ils vont solliciter la préalable.
Oui.
C'était une anomalie, c'est quelque chose de pas normal. Et donc dans les états généraux, on a demandé que ça soit abrogé, qu'on ait, comme disait tout à l'heure, je crois que c'est Monsieur Malong qui disait, ben il faut d'abord que vous avez fait votre construction, vous équipez, vous remplissez les critères. On vient vérifier, on vient visiter.
On s'assure que tout est bon.
Voilà,
on vous autorise.
On vous donne l'autorisation. On est quand même dans le bon sens. Je comprends pas. Et voilà. Et en fait, c'est une loi. Les gens s'engouffraient dedans pour faire leurs établissements.
C'était quoi pour de l'argent, les gens?
Entre autres, ça devenait du business.
Business,
ça devenait tout ça. Et donc, on remplissait pas. On se disait qu'on va les remplir avec le temps. Comme on a toujours tendance à dire, mais ça viendra jamais. La loi ne s'appliquera jamais. Les gens continuent.
Et on continue.
Il y a eu ce phénomène. Juste une parenthèse. En Roumanie, à la période de la chute de Ceausescu, juste pour rappeler, il y a eu une population des facultés, notamment des facultés de médecine. Ils sont passés d'une cinquantaine à plus de 500. Et ils se sont rendus compte des catastrophes. Et par la suite, ils ont pris des décisions. Ils ont refermé tous les 500, tous les nouveaux établissements qui avaient été construits dans cette période de désordre pour revenir aux normes. Parce que aussi ils ont dit mais la vie, on ne peut pas jouer avec. Mmh. Ça m'étonnerait que nous, au Congo, qu'on pense que la vie, on peut continuer à jouer avec.
Maintenant, tous les médecins mal formés, là, vous allez retirer
il y a des procédures,
le titre.
Il y a des procédures pour ces médecins ou qui ont un D3, un doctorat, le collègue en parlait. Il y aura des procédures de mise à niveau. Des mises à, donc de savoir, on sait globalement quelle est la qualité des formations dans tel ou tel établissement, qui donne cours. Quelqu'un disait tout à l'heure, le professeur, effectivement, il parlait des centres de formation. Nous avons trouvé des facultés où c'est un infirmier. Nous avons trouvé des facultés où c'est un médecin vétérinaire qui donnait 5, 6, 7 cours à la faculté de médecine humaine et qui avait son petit centre à côté de santé qui était le centre des stages. Comment on peut tolérer des choses comme ça?
Il y a même, médecin vétérinaire.
Oui, il y a même des facultés où ils signent eux-mêmes leur diplôme. Ça ne vient pas vers le ministère. Mais c'est comment, dans notre pays, on peut en arriver là à ça? Il faut arrêter ces éléments. Donc, il y a un comité de suivi qui va être là pour s'assurer que les normes, les décisions qui sont prises sont effectivement appliquées, avec même une résolution, qui est une recommandation, des audits de viabilité qui devront devenir réguliers. Tous les 3 à 5 ans, c'est pas parce qu'on a réussi son audit la première fois qu'on pense que c'est terminé. Il y a des contrôles, ce qu'on appelle
des
évaluations régulières tous les 3 à 5 ans pour s'assurer que vous êtes toujours aux normes. Alors, Simon demandait quel est le sort des enseignants. Mais je vais dire d'abord, est-ce que cet enseignant lui-même est enseignant, oui ou non? Il faudra déjà répondre à cette question. Est-ce qu'il est il est homologué? Il a tout ce qui est requis pour être enseignant? Est-ce qu'il remplit les conditions? Si oui, s'il est un enseignant, il est agrégé ou il travaille sous le contrôle d'un professeur agrégé qui est donc obligatoirement dans une université probablement viable, il verra le sort de ses collègues qui va revenir, puisque la plupart de ces facultés, en fait, finalement, n'ont pas des enseignants permanents, des enseignants résidents.
Mmh. Il ne compte que sur les visiteurs.
Il est visiteur, donc il va revenir à son université s'il remplit les conditions. Si l'enseignant est infirmier, si l'enseignant est, kiné, ou il n'est pas enseignant, donc il n'y a pas à parler son sort. On devrait même engager de poursuites contre ces gens qui sont hors la loi. Et on ne peut pas tolérer des genres de choses comme ça dans notre pays. Il est temps que la loi soit respectée partout et par tous, je pense. Mmh. Les étudiants, on en a parlé. Les étudiants, on les relocalise selon le standard, la catégorie de leurs établissements pour qu'ils puissent bénéficier d'une formation solide, normale et qu'ils puissent être compétents. Juste pour finir cette série de questions, on a constaté lors des enquêtes que finalement les inscriptions ont flambé au niveau des sciences humaines, et les sections, vous voyez, les filières techniques et technologiques ont chuté, quasiment moins de 10%. Alors que nous sommes dans un pays en émergence, un pays en développement,
cette tendance?
C'est difficile, il y a sans doute des gens qui ont des vocations, mais que brusquement, plus de 80-90% préfèrent ces filières-là, probablement, on s'est dit que là-bas, je peux y aller un peu plus facilement, je vais pouvoir... Vous savez, il y a plein de gens qui sont passés dans les facultés. On a beaucoup parlé des médecins, mais d'infirmiers, de gens qui ont fini par arrêter et aller dans telle ou telle faculté, parce qu'il sait très bien qu'au bout de quelques années, il en sortira avec son diplôme de docteur. C'est quasiment garanti.
Et donc, quelqu'un a dit qu'il ne faut pas s'arrêter à la médecine. Il faut attaquer aussi...
ça ne s'arrêtera pas à la
le
médecine.
Le droit, tout ça,
les restes va suivre.
Ça va suivre.
Les juristes, les avocats, les autres facultés, ça va suivre. On n'a pas laissé des filières en somnolence. Simplement, Excellence, Monsieur le Ministre, a choisi une cadence et a dit, voilà, la vie, on commence par là. Et puis, on va continuer, et que chacun de nous, vraiment chacun de nous, prenne conscience que ici, il ne s'agit pas de parler de sentiments ou de régions de province. Tous les Congolais doivent avoir droit à des soins de santé de qualité dans tous les coins du pays. Et notre pays est capable de le faire. Là, on se rend compte qu'il y a la volonté de nos autorités. Le chef de l'État a réaffirmé cette volonté par 21 États généraux. Le Premier ministre et le ministre des tutelles, nous devrions le soutenir. Nous devrions l'encourager, être lucide, se dire que là, c'est des mesures qui nous protègent. Mettons-nous ensemble pour y aller.
Professeur Chimpi, Antoine Chimpi, coordonnateur des États généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que comme il y a beaucoup de mesures, on va vous recevoir au fur et à mesure pour en parler dans cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci à vous, Jordi. Merci à l'équipe.
Tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons aborder un autre sujet. Comment bénéficier de la bourse de l'association dénommée United World College, Collège du Monde Uni. Eh bien, on va en parler avec Monsieur Demto Akanjinga, coordonnateur du comité national. Et on aura également Daniel Alitoum, secrétaire national de ce collège.